comment se fait-il que, depuis deux ans qu'on pose des questions sur le pourquoi ça ne fonctionne pas, comment il se fait que le président de la CEMER, Michel Lagacé, et le directeur général de la CEMER, M. Forêt, puis je vais ajouter à ça la mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Vignet, qui est là depuis un an, puis le maire Gamache qu'on questionnait avant que Mme Vignet soit là, comment ça se fait qu'ils ont toujours pris ça sur eux-mêmes au risque de n'avoir rien à répondre ou pas grand-chose, sinon ce qu'on nous dit, c'est que quand ça va fonctionner, ça va être rentable? Comment se fait-il que ces gens-là ont jamais dit, ben écoutez, là, nous autres, on connaît rien là-dedans, on va vous référer au président de Térex Envirogaz, Éric Tremblay. Et pourquoi ils l'ont pas fait, je ne sais pas. Parce que c'était très bien écrit dans le journal Le Soleil du 19 octobre 2016 que Térex Envirogaz, une entreprise privée de Québec, fournissait les équipements et les services d'ingénierie nécessaires à la digestion anaérobique des matières organiques et du raffinage du biogaz. Comment se fait-il qu'on nous a jamais référé à M. Tremblay? Je ne sais pas. Et peut-être que de notre côté, de mon côté, la raison pour laquelle on s'est jamais dit, ben là, on va arrêter de parler avec des gens dont c'est pas leur compétence, puis on va appeler ceux qui... À un moment donné, là, je pense que là-dedans, là, sur le plan des communications, ça a pas été fort fort. Ça a pas été fort fort parce que moi, à venir jusqu'à la semaine passée, j'avais l'impression que les gens qui venaient réparer la machine, ils venaient des États-Unis. C'est l'impression que j'avais, qu'ils venaient des États-Unis. Comment ça se fait que j'ai pensé ça? Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, dans une entrevue, on est venu nous dire, ben, ce sont des gens qui viennent de la Californie. Je ne sais pas, je m'en souviens même plus. Toujours est-il qu'on a retrouvé Éric Tremblay, le président de Térex Envirogaz. Il est en ligne. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour, M. Saint-Pierre.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, le poste qu'on avait pour vous rejoindre, ça ne fonctionnait pas. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes là, c'est ça qui est important. Tremblay, première question que je veux vous poser ce matin, comment Térex Envirogaz est-il atterri dans le dossier de l'usine de biométhanisation ici à Rivière-du-Loup?
Parce que la communauté, en fait, de Rivière-du-Loup avait décidé de traiter, en fait, ces résidus organiques par biométhanisation. Puis, étant donné leur localisation, elles devaient bioraffiner puis faire du biométhane, du gaz naturel liquéfié. Puis, nous, c'est un projet qu'on trouvait porteur. C'est un projet qu'on croit toujours, en fin de compte, qu'on trouve intéressant, qu'on avait une expertise qu'on pouvait, en fin de compte, supporter la communauté de Rivière-du-Loup.
Oui, mais monsieur Tremblay, la raison pour laquelle on vous a appelé, parce que je veux quand même qu'on abrège les réponses, parce qu'on a du temps, mais moi, j'ai beaucoup de questions. La raison pour laquelle on vous a appelé, est-ce que c'est parce que vous étiez les seuls au Québec à avoir une certaine expertise dans ce domaine-là?
C'est une appel d'offres public qui était sorti, puis effectivement, la compagnie ont été les seuls qui ont répondu.
D'accord, vous avez été les seuls à répondre. Au moment où on implante l'usine de biométhanisation à Rivière-des-Vases, M. Tremblay, est-ce que c'est votre première installation de ce type-là ou est-ce que vous en aviez installé d'autres ailleurs?
C'était notre première. D'ailleurs, c'était la première qui se faisait, je vous dirais, de ce modèle-là en Amérique du Nord. Donc, on était effectivement les premières, mais par la suite, on était impliqués dans quatre autres projets au Québec. Donc, l'expertise qu'on a bâtie à Rivière-du-Loup, qui venait principalement d'Europe, je vais faire un aparté là-dessus, parce qu'on s'est associé avec une compagnie européenne, on a pu la reproduire avec quatre autres usines ici au Québec.
Bien. Les quatre autres usines dont vous parlez, est-ce qu'elles fonctionnent et est-ce qu'elles produisent du gaz naturel liquéfié ou dans le cas des autres usines, on se contente de produire du gaz naturel point, là?
Oui, les autres usines, on produit du gaz naturel point. La raison étant que Rivière-du-Loup a une particularité, c'est qu'elle n'est pas connectée, en fin de compte, au réseau de gaz naturel de la compagnie Énergir. Donc, elle avait cette particularité-là. C'est pour ça que la communauté a dû, en fin de compte, elle a choisi de produire du gaz naturel liquéfié, qui était un bon choix.
Bien. Donc, les autres usines fonctionnent. Celle de Rivière-du-Loup fonctionne jusqu'à ce qu'on veuille liquéfier le gaz naturel. Là, on est en pépin avec ça depuis environ 2 ans. De produire du gaz naturel liquéfié, M. Tremblay, donc je comprends que non seulement ça faisait partie de votre première installation, Rivière-du-Loup, c'était une première, mais de produire du gaz naturel liquéfié, ça, c'est la première et elle ne fonctionne pas.
Oui, vous avez raison. Elle ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Il y a comme eu des moments... Ce n'est pas été des raisons techniques, en fin de compte, pour lesquelles elle ne fonctionnait pas. Je vous dirais, en 2016, il n'y avait pas assez de biogaz. Nous, on avait la communauté avait estimé une quantité minimum de biogaz à produire. Les installations étaient conçues pour produire, pour pouvoir traiter un peu plus de biogaz. Donc, il a fallu qu'on fasse des modifications assez majeures, en fin de compte, pour diminuer la quantité minimum de biogaz. En 2017, écoutez, là, il y a eu... Nous, le biogaz qu'on raffine, en fin de compte, provient à la fois d'usines de biométhanisation, mais aussi à la fois des biogaz qui sont produits par le dépotoir, le lieu d'enfouissement technique de Rivière-aux-Vaches.
Oui.
Puis malheureusement, il y a eu un gros bris dans les conduites, en fin de compte, du lait de Rivière-aux-Vaches, qui faisait en sorte qu'on n'avait pas encore assez de biogaz pour pouvoir traiter.
Bien.
Donc, 2017 a été une année perdue. 2018, on a recommencé, je vous dirais, en avril. En juin, juillet, on a tout réglé les problèmes techniques. Il n'y avait plus de... En juillet, nous, on n'a plus de problèmes techniques. Malheureusement, quand on monte en production, arrivent des petits pépins, je vous dirais, des pépins qui sont mineurs, mais qui, à chaque fois, nous retardent de 3-4 semaines.
Oui.
Il y a une valve qui pète, il y a un gasket qui saute.
Justement, tandis que vous êtes là, M. Tremblay, je veux en profiter pour ouvrir des parenthèses, là.
Oui. Quand
on dit il y a une valve qui pète, il y a un gasket qui saute, comment se fait-il que... Bon, je peux comprendre que cette machine-là soit une machine qu'on éprouvait pour la première fois au Québec. Et si je me trompe, là, vous me reprenez sur le champ, là. C'est une machine qu'on éprouvait pour la première fois au Québec. Comment se fait-il que des pièces d'origine aient été aussi fragiles, faisant en sorte que chaque fois qu'on la mettait en marche, on avait ce genre de... comme on dit, on avait un gasket à 2,5 piastres à remplacer qui nous créait des problèmes pour 100 000 par mois, là.
Oui, il y a deux raisons majeures. On est dans le domaine de la cryogénie, en fin de compte. La cryogénie, c'est-à-dire qu'on s'en va, nous autres, à moins 162 degrés Celsius, qui est très froid. Il n'y a pas beaucoup d'expertise en cryogénie. Les Américains, effectivement, vous n'aviez pas tort au début. On fait affaire avec des spécialistes américains qui sont venus, en fin de compte, nous supporter durant la première partie de 2018. Là. Donc, c'était vrai. Ce que vous aviez entendu, c'était vrai. Juste pour vous dire, puis aussi, la machine a été arrêtée pendant 2 ans. Quand une machine est arrêtée, malheureusement, il y a des pépins qui sortent. C'est des pépins que quand une usine fonctionne toujours en continu, ces pépins-là, tu es plus capable de les prévoir, tu les vois, tu sais lesquels qui vont utiliser rapidement, puis là, après ça, tu les remplaces en maintenance préventive. Là, malheureusement, effectivement, on avait un lot d'inconnus, et à chaque fois qu'on monte en pression ou qu'on s'en va à des températures plus basses, il nous arrive des fois des petits éléments qu'on n'avait pas prévus.
Et là, M. Tremblay, je parle à l'actionnaire de la CEMER, parce que Terex Envirogaz est actionnaire à 20%. J'ai compris, en lisant finalement le profil de Terex Envirogaz sur Internet, j'ai compris que vous étiez à la fois l'actionnaire et le fournisseur. C'est bien ça?
On a une entente spéciale, effectivement, pour supporter la CEMER concernant l'achat pour ce système-là. Donc, le fournisseur, on fournit certains éléments, on fournit l'expertise. On n'est pas le fournisseur complet, mais vous avez raison, on est à la fois fournisseurs et actionnaires.
Bien. Vous fournissez quoi, M. Tremblay? Parce que à un moment donné, on nous a informé en nous disant que finalement, la CEMER, là, cette usine de biométhanisation-là, n'était pas achetée d'un seul bloc, d'un seul fournisseur, qui a certains éléments qui venaient d'un endroit, certains autres éléments qui venaient d'un autre endroit. Est-ce que ça, vous le confirmez?
C'est exact. C'est précis. Il n'y a pas une entreprise, en fin de compte, dans le monde qui... Parce que vous savez, c'est quatre procédés qui sont en série. Là. T'as un, transformer la matière en matériel pour faire de la biométhanisation, t'as un matériel de biométhanisation, puis t'as le bioraffinage, qui est la transformation du biogaz en GNL renouvelable. Puis effectivement, il n'y a pas de compagnie qui offre ça. C'est des éléments, c'est quatre procédés qui doivent être achetés à divers endroits indépendants. Oui. Donc, la biométhanisation, on l'a acheté de Norvège, une compagnie, en fin de compte, avec qui on a fait affaire, de Suède, excusez-moi. D'autres parties, ça venait principalement de Californie, donc, vous nous avez parlé. Donc, c'était des blocs, puis d'autres parties d'Allemagne. Donc, c'était principalement la Suède, la Norvège, l'Allemagne, en fin de compte, la Californie. Oui. Puis, l'intégration de ces quatre blocs-là, bien, c'est nous qu'ils faisions.
Ouais. Monsieur Tremblay, je vous pose la question, puis vous êtes là pour y répondre, donc on prendra votre réponse pour ce qu'elle sera. Est-ce qu'on tire une conclusion trop rapide si on pense que Térix Envirogaz, au moment où il devient chargé de projet de l'établissement de la première usine de biométhanisation qui veut produire du gaz naturel liquéfié, est-ce qu'on se trompe en pensant que Térix Envirogaz n'avait peut-être pas et l'expertise et les connaissances et le recul qu'il fallait pour assembler toute cette pièce-là pour qu'elle devienne une seule et même usine?
Je suis en désaccord avec votre affirmation parce que notre expertise, elle est reconnue principalement par d'autres personnes qui, enfin, par d'autres entreprises, en fin de compte, qui veulent justement la voir. Quand on a pris...
Non, aujourd'hui, peut-être, M. Tremblay, mais au moment où vous devenez le maître d'œuvre de la CEMER, c'est votre première. Peut-être que la bouchée était un peu grosse, là.
Ben, rétrospectivement, on peut toujours juger, mais l'idée est que cette usine-là était unique au monde. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que au début, nous avions peut-être pas l'expertise pour tout comprendre les tenants et aboutissants de ce projet-là, mais je peux vous avouer qu'il n'y avait aucune entreprise dans le monde qui avait toutes les tenants et aboutissants pour prendre un projet comme ça, parce qu'il était unique.
Bien. Vous étiez au départ actionnaire à 49%. Vous avez laissé partir un bloc d'action de 19% pour vous retrouver maintenant à 20%. Dans Térix Envirogaz, il y a des actionnaires. Je présume que ceux-là ont hâte que ça fonctionne.
Oui. Oh, définitivement.
Pourquoi vous avez laissé aller un bloc d'action de 19% alors qu'on promettait des retombées fort intéressantes et qu'on continue de dire que quand ça va finir par fonctionner, ça va être rentable? Moi, il me semble que si je veux mettre mes billes quelque part et qu'on me dit que ça va fonctionner, je suis pas intéressé de vendre 19% de mon 49%.
C'est une raison technique. C'est pas tellement si difficile que ça à expliquer. La raison était qu'on recevait, en fin de compte, à l'époque, en fin de compte, un prêt de la FCM pour un montant de 7,5 millions. Et puis, nous, le prêt de la FCM ne pouvait être garanti que par les municipalités. Puis, étant donné qu'une municipalité ne peut pas garantir le prêt d'une entreprise privée, en recevant ce prêt-là de la FCM, nous, Térix Envirogaz, nous devions, en fin de compte, mettre, je me rappelle bien, 3 ou 3,5 millions en fidéi commis. Ça veut dire ranger pendant 20 ans. Là, je vous dirais, la bouchette est un petit peu plus grosse. On était intéressé toujours à être partenaire par la CEMER. On investit quand même passablement d'argent là-dedans. Mais de remettre un autre 3,5 millions en fidéi commis, donc c'était un petit peu trop pour nous, les actionnaires. On s'est comme dit, ben écoutez, vous savez, étant donné le contexte actuel, nous, on désire, en fin de compte, de rabaisser ça à 1,5 million, qu'on a dû mettre en fidéi commis, d'ailleurs, puis dire, écoutez, on va pas. C'est ça. On va laisser passer pour le 2 millions supplémentaires.
Ouais.
Donc, c'était vraiment une raison technique, je vous dirais, légale, là, qu'on a dû faire ça.
Monsieur Tremblay, quand on regarde la situation aujourd'hui, et là, je vous lance des perches, puis vous y répondez comme vous voulez. Étant donné que vous êtes actionnaire à 20 % étant donné que vous êtes celui qui fournit l'expertise, parce que j'ai bien compris là que vous avez rien vendu en termes d'équipement à la CMR, c'est bien ça?
Effectivement.
Bon, vous avez rien vendu, mais vous êtes l'intermédiaire entre des fournisseurs et l'acheteur. Et l'acheteur, ben, vous êtes partenaire dans l'acheteur à 20 %. Est-ce que c'est ce qui fait que, quelque part, Térix Envirogaz n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire de continuer avec la CMR, n'a pas vraiment le choix non plus d'offrir, ce que je dirais, des taux préférentiels d'accompagnement, parce que vous êtes aussi à 20 % partenaire. Si vous retirez vos billes, vous faites planter le projet dans lequel vous êtes à la fois le fournisseur d'expertise et l'actionnaire. En d'autres mots, on pourrait résumer ça en disant que vous avez le bras dans le tordeur et que vous pouvez pas partir à reculons.
On est plus enthousiaste que ça, M. Saint-Pierre. Honnêtement, là, on se sent pas comme ça. On est souvent, en fin de compte, en rencontre un peu... comment je pourrais dire? Bon, on ne parlera pas d'émotion, parce qu'il n'y a pas d'émotion, mais on est un peu déçu du temps que ça prend, mais on est très confiant, en fin de compte, de la résultante. On se sent pas, mes actionnaires et moi, en fin de compte, et la compagnie Térix et mes associés, comme ayant le bras dans le tordeur. Au contraire, on est plutôt... des fois, on est tanné, je l'avoue, mais on est vraiment enthousiaste de terminer ce projet-là. On sait c'est quoi l'impact que va avoir ce projet-là pour Térix Envirogaz, pour la communauté de Rivière-du-Loup, puis pour l'environnement. Donc, on est plutôt fiers de ce qu'on fait.
Ouais.
C'est pas un sentiment qu'on a.
Non, mais je comprends ça, M. Tremblay, mais j'insiste un peu, si vous me permettez. Vos actionnaires autour de la table, là, eux, ce sont des gens d'affaires. Ce sont pas des conseils municipaux. Ce sont pas des élus qui sont embarqués dans ce projet-là avec l'argent de la communauté et non pas le leur. Quand on parle de l'actionnariat à 20 % de Térix Envirogaz, c'est l'argent qui vient de vos poches et qui vient de l'argent des actionnaires. Mais en même temps, vous êtes le fournisseur d'expertise. Donc, ce serait un peu compliqué de dire, ben nous autres, on retire nos billes, on s'en va chez nous, et c'est terminé le projet, là.
Oui, mais c'est pas une question qui se pose à l'interne. On a des réponses à donner à nos actionnaires, c'est sûr. Des réponses qui sont quand même... au conseil d'administration de la CMR aussi, que ce soit au conseil d'administration de Térix Envirogaz, quand on se doit de donner des réponses, la raison du pourquoi. Je veux dire, pourquoi qu'on retarde autant? Mais puis aussi l'aspect financier du projet, sauf que ça n'a jamais été discuté, ou je vous dirais évalué de retirer nos billes. Puis ouais. Effectivement, que ce soit moralement ou financièrement et tout, là, c'est pas une option. Là.
Ouais.
C'est sûr qu'on va le finir, d'ailleurs, j'en suis convaincu.
Maintenant, M. Tremblay, en terminant. Les projections qu'on avait faites concernant l'approvisionnement, c'est-à-dire les matières venant de la MRC de Rivière-du-Loup, venant des MRC environnantes, venant de villes qui ne seraient même pas environnantes. On pensait à un moment donné à Matane, on pensait à Sept-Îles, on pensait à d'autres villes. De voir que la matière n'arrive pas comme on le souhaiterait, est-ce que ça inquiète l'actionnaire à 20 % parce que, évidemment, si on veut finir par rentrer dans son argent, il va falloir qu'on produise du gaz naturel liquéfié, puis du gaz naturel liquéfié, on fait pas ça avec de la roche, là.
Oui, c'est une excellente question. Je vous dirais, la tendance, que ce soit la Rivière-du-Loup et ou les autres municipalités du Québec, est assez constante. C'est-à-dire que l'année 1, on a une certaine production, un certain gisement. Et puis, au fil des années, le gisement augmente jusqu'à atteindre, en fin de compte, les chiffres qu'on devait s'attendre. Donc ça, je vous dirais, c'est un enjeu qui va prendre le temps, mais qu'on sait qu'il va arriver. La beauté de notre projet, vous savez, c'était qu'on est connecté sur le site d'enfouissement de la rivière Auvergne. Puis ça, le site d'enfouissement de la rivière Auvergne nous fournit 75% du gaz naturel qu'on a besoin pour rendre notre projet rentable.
Mais quand il n'y en aura plus, M. Tremblay, vous allez faire quoi?
Oui, mais c'est ça la beauté. Parce que quand il n'y aura plus de gaz naturel qui provient de la rivière Auvergne, il va provenir de quelque part. Il va provenir des résidus organiques qui vont biométhaniser.
Ouais,
on
n'a
pas le choix. C'est soit A et soit B. Donc, c'est ça la beauté de mettre une usine de biométhanisation sur un site d'enfouissement.
Oui, mais justement, M. Tremblay, cette équation-là, à prime abord, peut paraître tout à fait raisonnable, mais à l'heure actuelle, on détourne déjà la matière par le bac brun et il n'y en a pas assez. Donc, quand la ressource qu'on a enfouie pendant 50 ans, pendant 60 ans à Rivière-des-Vases va être épuisée, c'est-à-dire que la matière qui est là va avoir été retournée à la nature, il est faux de prétendre qu'on va avoir plus... On l'a déjà, la matière, et elle provient du bac brun. Donc, il va falloir la trouver ailleurs. Et c'est justement les ailleurs qui semblent pas faciles à trouver.
On reçoit pas toute la matière qu'on devrait recevoir. Comme je vous dis, il y a une évolution du citoyen, en fin de compte, qui augmente considérablement, parce qu'il sait qu'il pourra plus envoyer sa matière au site d'enfouissement. Ainsi que tous les résidus organiques qui vont là, que ce soit des boues qui proviennent de l'industrie agroalimentaire, que ce soit des institutions, que ce soit des usines, en fin de compte, là, qui produisent l'agroalimentaire, ces résidus-là vont devoir aller dans des usines de biométhanisation.
Ou encore, M. Tremblay, dans des sites de compostage, oublions-le pas, là.
Oui, c'est juste qu'un site de compostage, les résidus agroalimentaires peuvent difficilement aller dans des sites de compostage parce qu'ils sont majoritairement liquides. Donc, quand on a une laiterie, une fromagerie, les résidus, on ne peut pas les envoyer dans un site de compostage à ciel ouvert. Donc, il faut soit être traité de façon liquide, il faut que ça reste liquide. Puis la seule façon de le faire, c'est de les envoyer dans une usine de biométhanisation ou de faire des épandages au champ sans traitement. Sauf que ces épandages au champ sans traitement-là, plus ça évolue, plus ils s'aperçoivent qu'ils sont mieux biométhanisés pour pouvoir hygiéniser puis augmenter la capacité fertilisante.
Ouais.
Je vous dis, j'ai parlé avec plusieurs compagnies dans l'agroalimentaire, puis ils sont tous confiants. Puis je dirais, notre offre, notre demande dans l'agroalimentaire augmente considérablement.
Bien. Une dernière question, M. Tremblay, et on va terminer avec ça. Après, je vous laisse tranquille. Lorsqu'on a commencé à traiter les matières qui étaient envoyées via le bac brun, et qu'on les a mis dans cette espèce de machine-là, que l'on comparait à un estomac, et je me souviens plus du nom que ça porte, là, turbo quelque chose, là, comment vous l'appelez en termes techniques, là? Turbo Expander, c'est bien ça?
Non, mélanger deux choses.
En tout cas, peu importe.
C'est un digesteur.
Le digesteur. Bon, à un moment donné, il y a eu des bris là-dedans. On a dit, bon, on actionne ça, puis ça brise. Puis bon, après, on règle ce problème-là, puis on met l'usine en marche. Puis bon, ça brise encore. Comment se fait-il qu'on s'est retrouvé... parlons du digesteur, entre autres. Comment se fait-il qu'on s'est retrouvé avec, en principe, une machine qui aurait dû être éprouvée ailleurs, puisqu'on avait de l'expertise qui venait d'Europe et d'ailleurs? Comment se fait-il que chez nous, dès le départ, des machines supposément éprouvées ont brisé? C'est comme si nous autres, ici à Rivière-du-Loup, on avait acheté quelque chose qui, au départ, était destiné au mal fonctionnement.
Je vous dirais une chose, on a acheté définitivement la Cadillac au point de vue. Je ne dis pas qu'on a dépensé.
Avec un moteur de Lada?
Non, on a vraiment acheté la Cadillac. Mais au corps défendant, le marché québécois n'était pas habitué, en fin de compte, au tri des matières organiques liées à la source pour la biométhanisation. Le marché européen a beaucoup. Ça fait ça depuis 20, 25, 30 ans. Nous, on a quand même eu d'apprentissage à faire. Puis, en fait, ce que je veux vous dire, là, c'est que la matière, là, elle était vraiment, c'est sûr, c'est drôle à dire, mais elle était vraiment différente de ce qu'on voyait en Europe. Puis, les Européens sont venus ici, là. Ils sont tous venus, ils nous ont tous regardés, ils ont regardé la matière, puis ils ont dit, ouf, OK, on a un enjeu. Mais, je vous dis, et puis tandis que c'est un procédé qui est en série, on a adressé les enjeux, on a trouvé des solutions techniques, on a fait des petites modifications, pas trop dispendieuses, on a fait des réparations, et puis maintenant, ça fonctionne très bien.
Okay.
Vous savez, il n'y a personne qui traite les résidus organiques triés à la source au Québec, puis nous, ça fait 3 ans qu'on le fait avec succès. Puis merci à Serge, puis merci à l'équipe de la CEMAR et tout, là, mais on a réussi ça. Mais c'est sûr que quand c'est arrivé, il y a eu des enjeux, mais les enjeux, c'est des enjeux bien techniques. On les adresse de façon technique, puis on les résout.
Monsieur Tremblay, avez-vous l'impression qu'on pourrait mettre ça en marche cette semaine, la semaine prochaine?
Je dirais, depuis le mois d'août, à chaque semaine, je crois que c'est la bonne semaine. Donc, je peux... À chaque mois d'août, là, à chaque fois que je repars, là, on répare un petit gasket, à chaque fois qu'on repart, j'ai toujours l'impression que c'est la bonne semaine.
Bien.
À chaque fois, il me reste des petites choses, mais on est proche.
Merci, M. Tremblay.
Merci beaucoup, M. Saint-Pierre.
Le président de Térix Envirogaz, il s'appelle Éric Tremblay. Déjà 7h47, c'est une entrevue qui a duré 22 minutes. J'espère qu'elle ne vous a pas paru, un, trop longue. J'espère que de deux, les questions qui ont été posées vous semblaient pertinentes. Et j'espère que de trois, ça vous permet d'avoir un meilleur portrait de la situation. Et le portrait de la situation, puis je pense que c'est très clair, là, on pourra réécouter cette entrevue-là sur ciel103.com, sur l'écoute en différé. Je pense que le constat, c'est que Rivière-du-Loup, pour avoir été le premier, et quand je dis Rivière-du-Loup, je parle de la MRC, je parle des actionnaires, je parle de l'actionnaire privé Térix Envirogaz, pour avoir été les premiers, il y a un prix à payer. Et il n'y a rien que l'avenir qui nous dira si ce prix à payer-là a été beaucoup trop élevé ou si le retard, les pertes financières, une fois comblées, permettront de dire que la patience a payé. On va aller retrouver tout de suite Kevin Beaulé et Stéphanie Gendron. Kevin, Stéphanie, t'es là?
Oui, je suis là.
Bon, Kevin qui vient d'arriver. Mm-hmm. C'est la seule conclusion que je puisse apporter à l'entrevue. Je sais pas si tu l'as écouté, Stéphanie.
Absolument,
mais,
absolument.
Mais il y aura eu un prix important à payer pour avoir été les premiers. Oui. Et il y a seulement que l'avenir qui nous dira si il en valait la peine.
Je comprends mieux maintenant le désir de vouloir se faire rembourser, entre guillemets, l'expertise développée. On n'a pas, je sais pas si tu l'as abordé au début de l'entrevue, je manquais les premières minutes, mais...
Non, pas du tout.
Tu te souviens que M. Lagacin et Mme Vignan avaient parlé, qu'il y a toujours un financement qui vient avec quand on est les premiers. J'en avais parlé un petit peu à l'usine avec eux, mais survolé, là. Puis on disait qu'au Québec, habituellement, le gouvernement donne 10 % un petit peu de cet argent-là et que là, on serait à 5 % Fait qu'on sent dans la légitimité de demander de l'argent. Et à la lumière de cette entrevue, je me demande, ça serait pas bien.
Oui, mais en même temps, Stéphanie, c'est le contraire. C'est qu'à la lumière de cette entrevue-là, M. Tremblay nous dit qu'il y a 4 usines à l'heure actuelle qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. À ce moment-là, ça veut dire que la seule expertise sur laquelle on pourrait peut-être aller chercher un peu de compensation...
C'est la liquéfaction.
C'est la liquéfaction, c'est exactement. Parce que pour le reste...
Sinon, Saint-Hyacinthe va aller chercher, là. C'est ça. Si eux le faisaient, là.
C'est ça. Si tu fais pas de liquéfaction, il n'y a pas de profit.
Il n'y a pas de profit.
Tu retournes au même point que si tu avais décidé de prendre le compostage.
Oui, oui.
Mais si le développement de cette technologie-là pour se rendre à la liquéfaction a valu un certain prix, des millions, puis que d'autres usines, peut-être, une fois qu'on va faire de l'argent, vont dire, ben moi aussi, j'aimerais en faire. Ils sont parvenus.
Ouais.
Ben, c'est peut-être là où il faut aller chercher l'argent. Mais j'ai apprécié l'entrevue. Toutes les questions ont été posées, Daniel, puis toutes les questions ont été répondues.
Ouais.
Fait que j'ai apprécié l'honnêteté de M. Ouais. Tremblay, qui ouais. réfléchit à chaque réponse, prenait le temps de le faire.
Ouais.
Fait que c'était nécessaire.
Oui, et puis je pense qu'il fallait aussi être capable de mettre en lumière, puis donner l'occasion à M. Tremblay de répondre à cette question-là qui, moi, me semble importante. Quand t'es actionnaire à 20 % mais que t'es aussi le fournisseur d'expertise, puis probablement, ça me surprendrait que ce soit M. Forêt ou M. Lagacé qui... qui a pris le téléphone puis qui a magasiné les équipements qu'il y a là. Là. Tu sais, quand t'es le fournisseur d'expertise, que t'es probablement l'intermédiaire entre le fournisseur et le client, ben je pense que c'est pas le temps que tu dises, bon, ben finalement, qui veut mon 20% d'action, nous autres, on s'en va, puis après ça, on va devenir strictement un fournisseur d'expertise. Je pense que la MRC aurait dit, un instant, là.
C'est une forme de garantie.
Si tu fais ça, tu cours après le trouble, mon chum, là. Donc, l'actionnaire à 20%, il y a autant intérêt que ça marche que l'actionnaire à 40%, voilà. Parce que lui aussi veut récupérer ses billes, puis on a compris, sans que M. Tremblay entre dans le détail par rapport à ça, on a compris que derrière lui, là, il y a des actionnaires qui demandent des comptes aussi. Mais c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est qu'il y a un parallèle à faire entre l'entreprise privée et le
public.
J'appelle ça le communautaire. Ouais. Entre l'entreprise privée et le communautaire ou le public. C'est qu'on s'aperçoit que les actionnaires, ils en posent des questions, puis ils veulent savoir, ils ont hâte aussi, eux autres, de rentrer dans leurs 20%. Sauf que, au niveau de la population, puis au niveau des médias, écoute, on pousse après ça, on fait des entrevues, mais il y a personne, au fond, qui... Il n'y a pas comme un représentant délégué des actionnaires. Le délégué des actionnaires, il est en même temps en politique, puis il est en même temps
le président
de la CEMER. Donc, c'est sûr qu'il défend nos intérêts, mais il défend d'abord l'intérêt d'avoir dit on s'est embarqué dans cette affaire-là, puis il va falloir que ça finisse par marcher. Tu veux pas perdre la face.
C'est nous autres, les actionnaires, qui doivent demander. Un peu comme M. Tremblay doit défendre son projet à ses actionnaires.
C'est en plein ça. Et je pense que, quelque part, même s'il y a plusieurs personnes que ça n'intéresse pas, à l'heure actuelle, les médias, et à des degrés divers, parce que tout le monde en a parlé en son temps puis en sa manière, les médias ont été les seuls à se préoccuper vraiment des intérêts des actionnaires en posant même les questions qui faisaient pas le bonheur.
Mm-hmm. Je pense qu'il faut donner le... On n'a pas beaucoup entendu les maires là-dedans, mais bon, Sylvie Vigneault, quand elle est arrivée, a dit « Je vais demander ce qui se passe, je veux savoir... » Ouais. Il y a eu une certaine façon de défendre un peu l'intérêt citoyen, puis à un moment donné, a pris évidemment pour ce que c'est la situation, mais il y a eu une tentative... qu'elle a tenté de défendre.
Non, puis le commentaire que je viens de faire par rapport à la défense des intérêts des actionnaires, je fais pas porter ce commentaire-là strictement sur le président de la CEMER, parce que probablement que lui... parce que c'est un gars qui est fier, je dirais même à la limite, c'est un gars qui est orgueilleux, il n'y a pas intérêt à ce que ça marche pas. Le commentaire, je le dirige particulièrement suite à la petite enquête qu'on a faite en appelant les maires un par un pour s'apercevoir que finalement, c'est pas eux autres qui graffinent le plus pour en connaître sur les tenants et aboutissants de la CEMER puis du dossier.
Ouais, parce que dans le cas de Michel Lagacé, ça pourrait devenir son héritage politique.
Oui. Ben, il y a l'éolien déjà, là. Mais il faudrait pas que l'échec de la biométhanisation l'emporte sur l'éolien.
Ben oui, c'est ça.